Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, en direct sur Radio Immo.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Immo, ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro du Mac de l'Immo. On est vendredi matin et comme d'habitude, alors je reçois une et deux invités, non pas une mais deux invités, deux sœurs qu'on connaît bien sur Radio Immo. Il s'agit des Siving Sisters sur Instagram, Sophie et Valérie Ingels. Bonjour, donc bonjour Valérie.
Bonjour.
Et bonjour Sophie.
Bonjour.
Alors vous, donc on vous connaît, vous êtes assez connue sur Instagram, hein, vous êtes suivie par quasiment 38 000 personnes, mais vous êtes également, enfin l'une d'entre vous est agent immobilier et vous avez donc une agence immobilière et un centre de formation donc dans l'immobilier, Siving Formation et l'agence Siving Immobilier qui se situe
à Canet-en-Roussillon, pour
à
ceux qui connaissent, c'est proche de Perpignan.
Voilà, donc ouais. dans le sud de la France.
Exactement.
Alors bon, bah l'idée de ce mag, c'est de faire connaissance, d'apprendre à vous connaître, savoir comment vous êtes formé dans l'immobilier, comment vous avez réussi à construire ce petit empire. Et puis on va parler aussi de travailler en famille, hein, puisque c'est le cas pour vous. Alors dans le mag, vous êtes aux commandes de la programmation musicale. On a écouté votre première musique juste avant le flash info. C'était Dancing with Myself de Billy Idol. Pourquoi ce choix musical que vous avez choisi à deux, hein, je précise.
C'est plutôt Valk. Ah. Mon choix musical, il est pas.
Ah, c'est
ça.
Non, parce que ça me met dans un bon mood. C'est le matin, il faut qu'on s'active, faut qu'on écoute une petite musique entraînante. Et voilà, je l'adore. Elle me donne envie de danser. Voilà.
D'accord. Donc c'est pour bien commencer la journée.
Exactement.
Et vous êtes du genre à écouter de la musique
Oui. Tout le temps au bureau, tout le temps, toujours en travaillant.
C'est motivant, quoi.
Alors quand vous dites travailler, donc vous travaillez tous les jours à l'agence. Comment ça se passe? Quelles sont vos journées, par exemple? Est-ce que vous êtes ensemble tout le temps?
Oh oui.
Oui. Et même quand on n'est pas ensemble, on part d'un rendez-vous, on s'appelle. Donc on est vraiment tout le temps ensemble. Mais c'est vrai qu'on n'a aucune journée qui se ressemble. C'est ça qui est bien aussi d'être à son compte et d'avoir plusieurs activités. C'est que vraiment, on a des journées hyper variées. On peut autant être en rendez-vous qu'au bureau, effectivement. Donc on a notre agence qui est à Canet, qui ne reçoit pas forcément de public. Donc c'est vraiment juste notre siège, finalement, dans lequel on a les équipes qui viennent aussi nous rejoindre de temps en temps.
Donc c'est quoi, c'est chez vous?
C'est des bureaux.
Oui, vous avez des bureaux.
Ouais, on a quand même fait le choix de prendre des bureaux pour sortir un petit peu quand même de la maison, de pas faire que du télétravail, hein, finalement, et d'avoir quand même un espace pour accueillir des personnes si besoin. Donc on est quand même la plupart du temps au bureau.
Ouais, je dirais 80% de nos journées quand même c'est le bureau et après le reste du temps c'est sur le terrain parce qu'on investit également ensemble en plus des activités entrepreneuriales. Donc du coup on est quand même on va en visite, on va en repérage, on fait des choses comme ça et puis pour l'agence aussi on se déplace pas mal.
Donc vous, là, vous avez des clients, j'imagine, de cette agence, vous êtes de la transaction. Oui. Est-ce que vous faites de la gestion aussi?
Non.
On a fait le choix vraiment d'avoir une agence immobilière qui ne fait que de la transaction. Donc du coup, on fait du mandat de vente et aussi du mandat de recherche en fonction de nos clients. Et du coup, ce qu'on a souhaité faire aussi avec cette agence, c'est de pouvoir proposer à nos clients du centre de formation les biens en avant-première. Du coup, si jamais c'est des produits un peu investisseurs qui peuvent correspondre sur le secteur de Perpignan, on le propose aussi à nos clients.
Oui, parce que du coup, alors le centre de formation, donc Siving Formation, ça permet d'apprendre aux gens à devenir investisseurs immobiliers. Hein.
Exactement. On accompagne en fait des personnes de partout en France et même dans les DOM-TOM. Et on les aide justement, pour la majorité, c'est leur premier bien immobilier, mais il y en a, ils ont déjà fait un placement qui n'était pas forcément... qui ne collent pas forcément à ce qu'ils veulent aujourd'hui. Et donc, on les aide à réorienter un petit peu leur stratégie d'investissement. Mais oui, on accompagne vraiment des investisseurs de tout milieu et dans leur premier ou deuxième projet d'investissement.
Alors, quand vous dites accompagnement, c'est quoi? Parce qu'on a l'habitude des formations, c'est en ligne une fois. Là, comment ça se passe, en fait, la formation?
On a un aspect aussi formation en ligne parce qu'on aime bien quand même donner un support visuel. Il y a aussi énormément de documents vraiment pratiques à utiliser. Donc des exemples de baux, par exemple, ou un dossier bancaire à présenter à la banque. Donc on a plein de documents qu'ils peuvent aussi utiliser. Mais même dans la partie formation, on a vraiment un suivi, un accompagnement. Donc on a la formation où il y a quand même un coach attitré qui vient parler à la personne, comprendre un petit peu quel est l'objectif, où est-ce qu'il en est dans son projet, est-ce qu'il a besoin de plus de soutien. Et après, on a vraiment une partie accompagnement. Alors, bien sûr, avec la partie vidéo, documents, etc. Mais Olaf, c'est vraiment un suivi structuré sur 6 mois avec un coaching toutes les semaines. Donc, un coach également attitré. C'est en petit groupe de 10 à 15 personnes. Et on les accompagne. Le but, c'est qu'à la fin des 6 mois, ils aient vraiment accompli cet investissement et qu'ils aient finalisé en fait un projet d'investissement.
Donc, c'est vraiment un accompagnement intense pendant 6 mois. En fait.
Oui, ouais. C'est vrai qu'on a réalisé qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas besoin que de la formation parce qu'il y en a qui ont les connaissances ou voilà, qui en tout cas grâce au module vidéo ont assez de matière en tout cas pour passer à l'action, mais ce qui manque c'est d'être pris par la main et d'avoir vraiment quelqu'un qui peut les guider dans leur choix et où la partie vraiment état d'esprit et mindset, il faut les remotiver un petit peu et ça c'était important pour nous de proposer cette partie accompagnement pour pouvoir leur mettre à disposition au quotidien quoi. Oui,
parce qu'on sous-estime un petit peu l'aspect les peurs qui viennent quand on va faire des visites, on se dit oui mais c'est peut-être trop beau pour être vrai ou la banque m'a dit ça, est-ce que c'est ok ou est-ce que je dois aller voir une autre banque, enfin il y a plein de questionnements en fait qui arrivent une fois qu'on se lance vraiment sur le terrain et qu'on n'anticipe pas quand on suit simplement une formation, donc c'est pour ça que pour nous c'était important vraiment d'avoir cet aspect accompagnement pour que il y ait vraiment un réel échange et un réel suivi.
Oui, bien sûr, parce qu'en plus, c'est vrai que beaucoup de gens, vous l'avez dit, ont les connaissances, savent ce qu'il faut faire. Mais après, le faire,
c'est autre chose.
Et passer à l'acte, c'est plus compliqué.
Ouais,
donc,
exactement.
Vous apportez un soutien.
C'est ça. Nous et avec l'équipe, du coup, on a pris des coachs aussi en interne avec nous qui nous aident et qui peuvent vraiment traquer au quotidien aussi ces baisses de motivation ou ces questionnements.
Alors, c'est une équipe de combien de personnes qui sont avec vous?
Alors aujourd'hui, le centre de formation, on est 11. Donc, y a autant une partie commerciale que les coachs, que quelqu'un qui nous aide sur les réseaux sociaux, le monteur vidéo, etc. Et après, sur l'agence immobilière, on a 2 agents commerciaux avec nous également. Donc, on est 13 au total.
Belle petite équipe.
Voilà.
Ouais. Et il y en a eu. Alors, laquelle est agent immobilière?
C'est moi.
C'est vous qui avez la carte donc T.
Oui, c'est ça. C'est ça, parce que du coup, c'est grâce aux études que j'ai fait au préalable, ça m'a permis de pouvoir avoir la carte T. Donc, on est quand même associé sur toutes les structures. Mais effectivement, c'est en mon nom qu'on a pu avoir cette carte professionnelle. Ouais.
Et alors, concernant la formation, combien de personnes se forment auprès de vous?
Aujourd'hui, on a plus de 600 clients.
Ouais.
Donc, on a commencé il y a 2 ans et demi à peu près.
Mm-hmm.
Et donc, on a plus de 600 clients aujourd'hui. Donc, ça fait pas mal de personnes.
Donc, à l'instant T ou depuis la création
Oui. Après, les personnes, une fois qu'elles rentrent dans la formation, même quand elles ont fini en fait, l'accompagnement des 6 mois, elles peuvent rester dans l'écosystème.
Oui.
Elles peuvent tout de même nous adresser leurs questions. Et quand elles reprennent un deuxième investissement, par exemple, elles peuvent revenir et nous redemander des questions. Donc, bon, il n'y a pas 600 personnes qui nous posent des questions à longueur de journée. Mais en tout cas, voilà, quand on parle de 600, c'est 600 depuis le début, mais qui restent aussi, qui peuvent revenir de temps en temps.
Et sur les 600, combien sont devenus propriétaires? Est-ce que vous avez un peu les stats ou...
Alors, c'est difficile vraiment d'avoir les stats exactes.
On a beaucoup de mal à traquer parce qu'il y a des personnes qui, soit finissent par investir, mais nous le disent pas forcément.
Ouais.
Donc, du coup, on a eu du mal à traquer. On en parlait tout à l'heure, mais c'était sur l'an dernier, il y a eu à peu près 10 millions investis. Donc on sait que
sur l'année, oui.
Ouais, sur l'année. Donc en termes de montant à investir, on le sait. En termes de passage à l'action, c'est vrai qu'on a un peu du mal à le traquer, quoi.
Après, il y a des personnes aussi qui investissent pas directement, qui font les 6 mois et qui au final, ça leur met un petit peu la puce à l'oreille de ce qui est possible. Et puis en fait, elles se disent, je vais attendre d'avoir cette augmentation, je vais attendre de changer de job pour pouvoir avoir plus d'apport, pour faire un plus gros projet dans 6 mois.
Ouais.
Donc, c'est des personnes qui sont rentrées dans la formation, qui n'ont peut-être pas investi à l'heure actuelle, mais qu'on sait qu'ils vont revenir dans 6 mois, 1 an et qu'ils vont réinvestir dans des choses encore plus conséquentes. Ouais.
Et alors, concernant vos investissements locatifs, vous avez monté une SCI, c'est ça?
Oui. Nous, on a commencé, je pense, comme beaucoup de personnes, à investir en nom propre. C'est quand même le plus simple au final quand on démarre. C'est ce qu'on fait toujours pour les résidences principales aujourd'hui. Par contre, on a effectivement fini par monter une SCI ensemble. Et aujourd'hui, on a un montage aussi où toutes nos sociétés sont détenues par un groupe. Et donc, on investit par le biais de nos sociétés.
D'accord. Et aujourd'hui, vous avez combien de biens? Vous possédez combien de biens?
On en a parlé tout à l'heure justement en podcast. Je ne sais pas si tu veux répondre. Mais...
Ouais. Non, vas-y.
Non, en fait, on a très souvent cette question. Et donc, on disait tout à l'heure au podcast où on était que
on fait le choix en fait de pas le divulguer, parce qu'on a, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui veulent s'assimiler du coup aux personnes qui voient sur les réseaux sociaux, ou alors des personnes du coup qui ne s'assimilent pas du tout en se disant mais c'est, je suis pas du tout là, je suis pas à ce niveau là, donc j'y arriverai jamais. Et donc dès le début, on a fait le parti pris avec Val de jamais en parler de ça. Donc quand on est en train de faire un projet, on le dit sur les réseaux pour montrer oui, on est en visite et oui, on signe un compromis, etc. Mais on ne dit pas forcément le nombre de biens qu'on a, le patrimoine net qu'on a. Enfin voilà, c'est un choix qu'on fait de ne pas le dire pour ne pas brider certaines personnes, quoi.
Ouais. Après, on peut dire que ça dépasse...
Une fourchette
Alors,
une grosse pochette.
Une grosse
pochette. Je suis ma journaliste là.
Je vais aller creuser.
Non, mais après ça dépasse largement le million en termes de valorisation.
Ouais.
Et après, bon, voilà, je pense que les chiffres en termes de valorisation parlent un peu plus que le nombre de lots qu'on peut avoir, parce qu'un lot à 25 000 ou un lot à...
En tout cas, vous avez plusieurs lots qui sont en location.
Oui, exactement.
Oui, plus d'une dizaine, effectivement, et plus d'un million à terme.
D'accord.
Effectivement,
et donc, ces lots donc, qui sont en location, est-ce que c'est de la location courte durée? Est-ce que c'est de la location meublée
On fait de tout.
Oui, on fait de tout. Alors, jusqu'à aujourd'hui, on faisait que du meublé. Mais dans le meublé, on faisait autant de location courte durée que de meublé classique.
Donc, avec un bail d'un an.
Ouais.
Et de la location saisonnière de l'autre côté.
Tout à fait. Et donc là, sur un projet qu'on est en train de signer, il y a un petit peu de location nue, parce que du coup, il y a une partie qui était déjà louée.
D'accord, donc vous gardez le locataire.
Voilà, on garde le locataire à aujourd'hui. C'est pas une envie, en tout cas, de faire de la location nue.
Mais c'est l'occasion qui s'est présentée.
Voilà, ça s'est présenté, on le fait comme ça. Mais c'est vrai que le meublé, c'est quand même ce qu'on conseille le plus aussi à nos coachés de faire.
Meublé traditionnel saisonnière
Oui, saisonnière s'ils souhaitent le faire. Après, il y en a qui ne veulent pas forcément, parce qu'il y a beaucoup plus de turnover. Forcément, il y a beaucoup plus de gestion. Mais sinon, sur de la colocation ou sur du meublé classique, effectivement, c'est plutôt sur ça que les personnes vont s'orienter. Ouais.
Alors, votre agence immobilière ne fait pas de gestion, mais vous, est-ce que vous gérez vos biens ou c'est vous déléguez, c'est une conciergerie ou une agence qui s'en occupe?
Alors, aujourd'hui, c'est... entre guillemets, on gère nous-mêmes, mais on a mis des systèmes en place pour que ça puisse être quand même délégué en grosse partie. C'est-à-dire qu'on a quand même l'équipe de ménage, on a des artisans avec qui on travaille qui peuvent se déplacer en cas de problème. Mais la gestion à proprement parler, c'est nous qui nous en occupons, parce qu'on a des logiciels aujourd'hui qui nous permettent d'être assez...
qui permettent d'automatiser
et où on n'a pas besoin d'être vraiment au quotidien sur ces choses-là. Quoi.
Donc par exemple, les candidats, c'est vous directement qui les triez, vous ne faites pas appel à quelqu'un.
Non.
Même pour la location saisonnière, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de turnover, c'est souvent des séjours de 2-3 jours, parfois une nuit.
C'est finalement, je trouve, le plus simple à déléguer, c'est la location courte durée, parce que sur de la location longue durée, effectivement, on va recevoir les candidatures, ça prend un peu plus de temps parce qu'on fait visiter au préalable, il y a tous les dossiers qui sont quand même un petit peu plus longs, alors que sur la location courte durée, certes, qui a un turnover plus rapide...
Mais il n'y a pas tant de démarches.
Ben non, c'est que la personne, elle book directement le bien. Il n'y a pas de problème d'impayé, puisque du coup, c'est fait directement par les plateformes. Et en fait, on a un logiciel, enfin une plateforme en tout cas, qui nous permet de centraliser toutes les annonces et finalement d'avoir une gestion qui est beaucoup plus simple. Et certes, il y a plus de demandes sur des choses qui ne fonctionnent pas ou quoi, mais si on a des artisans ou l'équipe de ménage qui peut se déplacer... Dans l'ensemble, je préfère une gestion de location courte durée que de devoir regarder, par exemple, les dossiers de candidature d'un meublé classique. Quoi.
Et en revanche, pour tout ce qui est ménage, la location courte durée, c'est 3 fois, 4 fois du ménage par semaine, changer les draps, etc. Donc ça, vous avez quelqu'un qui... Vous n'allez pas le faire directement.
Non. Ça, on n'aurait vraiment pas le temps.
Ça prend du temps.
Oui. Non, ça, on a une équipe qui effectivement s'en occupe et on met à disposition de base assez de linge pour que du coup, la personne puisse à chaque fois faire tourner ça.
Donc que vous mettez dans les logements. Dans les logements directement, et la personne s'en sert.
Soit on a un placard qui est fermé à clé, donc c'est vraiment l'équipe de ménage, parce qu'on ne veut pas que les voyageurs aient accès à ce placard-là. Ou alors, c'est quand il y a une cave ou quand il y a un endroit où on peut stocker.
Donc, sur place, les personnes du ménage peuvent utiliser des linges propres et des draps propres.
C'est ça.
Donc après, elles font le linge soit sur place et elles l'étendent le temps de faire le ménage et donc elles le remplacent avec du linge neuf et donc le linge qui sèche, elles l'emportent, ou alors elles le font ailleurs quand elles peuvent.
D'accord.
Mais du coup, ça dépend vraiment au cas par cas en termes de logement, parce qu'il y en a où ça s'y prête, ça s'y prête pas. Mais c'est vrai que l'équipe ménage, ils sont rodés maintenant, ils savent un peu comment on fonctionne, on sait comment ils fonctionnent. Ils ont accès au logiciel, donc ils savent qui vient, combien de voyageurs, part, ouais. quand est-ce qu'ils repartent.
D'accord.
Donc en fait, ils se gèrent, oui. on n'a même pas besoin d'être derrière eux pour dire oui, t'as vu, il y a une résa qui est là. Ils savent, ils gèrent et ils gèrent le stock aussi. Donc, ouais.
En fait, nous, c'est le travail qu'en amont, on livre le logement terminé, hein, je veux dire, avec l'archi qui a fait les plans de l'aménagement, etc. Et nous, la seule chose qu'on fait encore aujourd'hui, c'est préparer les guides d'accueil. Mais on a une trame aujourd'hui qui est faite et donc on adapte au logement qui sort à ce moment-là et c'est tout, quoi.
Et ça a été compliqué à mettre en place, cette logistique, parce que c'est ce qui peut freiner parfois les investisseurs à faire de la location saisonnière aussi. Hein. C'est que faut trouver des personnes de confiance aussi qui font le ménage. Et puis ça prend du temps, etc. Il faut bien s'organiser. Ouais. C'est toute une logistique. Mais bon, une fois qu'on a bien trouvé, tout roule. Mmh.
C'est ça. Ouais.
C'est vrai que c'était pas facile. Enfin, on va pas vous mentir, c'était pas facile. Et puis il y a eu des petits couacs sur le chemin. Enfin, je me rappelle encore une fois, il y a des moments où faut y aller dans le rush parce que la personne qui devait s'occuper du bien nous a planté au dernier moment.
Ouais.
Et faute ça de vous temps, ça nous dit aller. Ou alors on doit faire intervenir un membre de la famille ou quelqu'un d'autre vraiment très rapidement. Mais c'est vrai que donc c'était beaucoup d'erreurs et d'apprentissage aussi, d'essais. Et aujourd'hui, je trouve qu'on a une bonne équipe en place. Mais oui, c'est vrai qu'avant de pouvoir mettre ça en place, il faut du temps. Mais je dirais que c'est la même chose avec des conciergeries ou même des agences immobilières. Il y en a où on leur confie la gestion et ça se passe pas forcément très bien plus.
Ouais.
Donc il y a ce risque aussi. Nous, là, on garde quand même la main dessus. Donc on peut nous-mêmes choisir de changer de prestataire. Alors que quand on passe avec une conciergerie, on n'a pas la main sur l'équipe de ménage qu'ils ont choisie, etc. Donc,
je pense que même si on souhaite déléguer à 100% quelque chose, je trouve ça quand même important de comprendre ce qui se fait, que ce soit dans l'immobilier ou dans autre chose, mais c'est important de comprendre et c'est important de garder un tout petit peu de surveillance quand même sur ce qui se passe, parce que si on délègue à 100% les yeux fermés, à moins que ce soit une équipe avec laquelle on travaille depuis 10 ans, c'est quand même bien de regarder.
Il y a toujours des erreurs.
Ouais.
Oui, c'est toujours. Vrai que ça vaut pour l'immobilier, mais...
pour autre chose aussi.
Pour n'importe quoi, c'est vrai qu'il faut toujours avoir un œil, je suis entièrement d'accord avec ça. Donc voilà, vous investissez ensemble, vous travaillez ensemble, commencez de travailler en famille. qui est la plus grande ?
C'est moi.
C'est Val.
Ouais.
On vous a deux ans d'écart. Deux ans d'écart ?
Ouais. Ouais. Donc,
oui, en soi, la différence à cet âge-là, on le sent plus trop, quoi.
Mais non, franchement, c'est un plaisir. Je sais que souvent, on est étonnés quand on donne cette réponse, mais on s'entend très bien, on se connaît par cœur. Donc, je pense que ça facilite aussi la communication parce que des fois, on n'a même pas besoin de se dire les choses. On se fait une confiance vraiment aveugle. On a la même vision. Je pense que ça, c'est très, très, très important avant de s'associer avec quelqu'un. C'est où est-ce qu'on va ? Est-ce qu'on a la même vision, les mêmes valeurs ? Et ce qui fait que ça marche aussi très très bien, c'est que d'entrée de jeu, on a séparé très rapidement les tâches au quotidien. Donc, Sceaux a vraiment ses missions à elle au sein des entreprises, j'ai les miennes, et en fait, on n'empiète pas au quotidien sur les missions des unes des autres.
Ouais.
Et donc,
dès le début, ça a été clair.
Très clair.
En fait, ça s'est fait super naturellement. En plus, on s'est pas dit, tiens, toi, tu pourrais t'occuper de ce pôle et toi de celui-là. C'est que on a chacune vraiment nos zones de génie aussi. Oui. Donc, ça s'est naturellement, elle est attendue vers certaines missions et moi vers d'autres. Et en fait, ça nous allait bien comme ça. Après, on se parle quand même de tout. On est au courant de tout ce qui se passe chacune dans nos pôles.
Bien sûr.
Puisque du coup, on a le bureau à côté. Donc, on se parle toute la journée. Et on se met d'accord sur les décisions vraiment importantes. Mais comme dit Val, on se fait confiance. Donc, il y a des choses sur lesquelles on dit, tu sais quoi, fais-le. Moi, je mets pas mon nez là-dedans parce que je te fais confiance. Donc ça fonctionne très bien. Et je pense que même quand on participe à des podcasts, des séminaires, des choses, c'est quand même beaucoup plus sympa de faire ça à deux de le faire seul.
Dans les moments de galère aussi.
Et dans les moments de galère, c'est vrai que comme elle disait tout à l'heure, quand on doit aller last minute sur un logement parce qu'on nous a planté ou quoi, que c'est nous qui le faisons, au moins on est deux.
Vous êtes deux, oui.
Et du coup, on finit par en rigoler, on se soutient. Donc autant pour les très bons moments, c'est cool de le partager, autant pour les mauvais, c'est sympa aussi d'avoir quelqu'un qui comprend exactement ce qu'on traverse.
Ça va plus vite aussi, je pense, d'être associé comme ça et d'avoir chacune ses forces, ça fait qu'on avance plus vite.
Ouais. Et quand vous dites, alors on a les mêmes visions, les mêmes valeurs, ça vient de l'éducation, ça, selon vous ? Vous avez grandi ensemble ?
Les valeurs, c'est sûr, parce que forcément, je pense qu'on prend une grosse partie aussi des valeurs de son entourage, donc de sa famille. Enfin, nous, en l'occurrence, très bonne influence de nos parents, je pense, donc forcément les mêmes valeurs. Après, la vision, je pense que ça s'est venu un petit peu au fur et à mesure aussi. pas forcément l'éducation, mais
juste nos caractères.
Juste nos caractères, ouais.
Ouais. Très s'accordaient bien, parce que bon, il y a des frères et sœurs qui s'entendent pas, mais il y en a qui s'entendent très bien, ça dépend.
Ça dépend
des familles. Mais
on a une troisième sœur avec qui on s'adore, on s'entend super bien. Elle a 1 an de plus que moi, donc 3 ans de plus que Sophie, donc très très proche en âge aussi.
Ouais.
Et c'est vrai que du coup, pas du tout la même vision. On travaille pas ensemble, mais voilà,
vous êtes proche quand même.
Oui, super proche. Ouais. Super super proche.
Ouais, donc c'est vrai que je pense que oui, il y a une question d'éducation, mais il y a quelque chose aussi qui fait qu'on est assez, même si on a chacune nos caractères, on a quand même un côté assez similaire sur là où on a envie d'aller, ou les, enfin voilà, la vision qu'on a avec nos coachés.
Et comment c'est parti? Alors comment vous êtes dit on devient entrepreneur ensemble? Qui a eu l'idée? Et est-ce que vos parents étaient dedans? Est-ce que dans l'immobilier?
Non, pas du tout. Pas vraiment. Alors ils étaient pas du tout dans l'immo. Notre mère était infirmière. Oui, bon, elle a eu un petit business dans la transaction de bois, mais elle est tombée dedans un peu par hasard.
D'accord.
Voilà. et après, notre père était pilote de ligne. Donc, rien à voir.
Aviation et médicale.
Après, ils nous ont toujours quand même inculqué une éducation financière, l'importance d'épargner, de placer, de réfléchir à l'avenir, de pas tout dépenser.
Dès le départ.
Dès le départ. Ils nous ont toujours aussi soutenus dans nos projets. Enfin, d'abord, c'était faites des études, mais après, faites ce que vous voulez. Enfin, soyez quand même entreprenez. Alors, ils n'avaient pas forcément la vision pour qu'on lance nos boîtes, même s'ils nous ont toujours un peu encouragés là-dedans. Mais ils voulaient qu'on soit indépendant, donc qu'on...
Ouais.
Voilà.
Je pense que c'était important pour eux aussi, sachant que on est 3 filles à la maison. Notre père, c'est quand même un peu un papa poule et
au milieu de toutes ses filles, forcément.
Non, du coup, il nous a quand même toujours poussé en tout cas à ce qu'on soit le plus indépendante possible financièrement. Ouais. Déjà, l'importance de stand-up pour nous, quoi.
De pas dépendre d'un homme.
Voilà, de pas dépendre et surtout voilà de faire des choses qui nous font kiffer. Donc ils nous ont quand même toujours soutenus là-dedans. Après, c'est Val qui a commencé son chemin entrepreneurial.
Ouais. J'étais en CDI à Londres, c'était en 2018. Ça a duré 8 mois. Et en fait, au bout de 8 mois, j'ai dit, il faut que je me lance. Enfin, je veux être mon propre patron.
Ouais.
Donc, j'ai créé ma première entreprise.
Dans l'immobilier ou...
Alors pas du tout. C'est une entreprise que j'ai encore aujourd'hui qui s'appelle UniAthlètes et on accompagne des sportifs qui veulent faire sport-études aux États-Unis à l'université.
D'accord.
Et on les aide à trouver des bourses pour devenir sportif aux US, parce que c'est un parcours que j'ai fait moi. Donc j'étais nageuse de haut niveau aux US et ça m'est resté dans la tête de pouvoir accompagner des sportifs et donner cette opportunité. Donc j'ai lancé ça en 2018 et après j'ai eu d'autres activités en parallèle, d'autres expériences entrepreneuriales également, et je tannais un petit peu Sophie pour qu'elle se lance là-dedans, parce que je voyais justement le potentiel, je voyais qu'elle travaillait super bien, elle se mettait corps et âme dans ce qu'elle faisait, mais trop d'heures, pas assez payées. Et je me suis dit, mais avec les capacités que toi tu as et que moi j'ai, on va faire exploser quelque chose. Et
parce qu'à l'époque, vous étiez vous avez fait vos études d'agent, dans l'immobilier, et vous travailliez pour une agence.
Moi, je travaillais dans la promotion immobilière, parce que j'ai fait effectivement un parcours qui me permettait d'ouvrir une agence, d'être dans la partie vraiment transaction ou gestion. Mais ce qui me plaisait vraiment, c'était la promotion immobilière pour voir les projets de A à Z sortir de terre, etc. Donc effectivement, moi en tête, j'avais qu'à 30 ans, je voulais être à mon compte dans l'immobilier, mais je savais pas encore exactement je savais pas du tout que j'allais finir aujourd'hui à la tête de Civing Formation et Civing Immobilier, mais qui aurait quelque chose où j'allais avoir ma propre entreprise. Et c'est vrai qu'on s'était dit, on va faire quelque chose ensemble, parce qu'avec ses capacités et tout ce qu'elle connaissait déjà sur l'entrepreneuriat, et moi, éventuellement, l'immobilier, on s'est dit, on va pouvoir peut-être un jour proposer quelque chose. Et donc, moi, j'étais effectivement en CDI à Toulouse chez un promoteur. Et
vous n'étiez pas satisfaite?
Je pense que je le voyais pas. Enfin, je pense que je me rendais pas forcément compte. C'est toi qui me tannais pas mal là-dessus, mais j'étais le genre d'employé. Enfin, j'arrivais au bureau vers 7 heures. Je partais parfois à 22, 23 heures.
L'employé modèle.
L'employé modèle. Je mettais le taux horaire, j'étais même plus au SMIC, quoi. C'était vraiment, c'était déconnant. Quand je rentrais les week-ends ou que je revenais pour les vacances, je passais une semaine séchée complète parce que je récupérais de cette vie un peu. Elle me disait, mais tout ça, tu le fais pour quelqu'un, alors que cette énergie, tu pourrais la mettre pour toi, construire quelque chose. Donc, ça a commencé à me dire, bon, peut-être que je ne vais pas attendre 30 ans pour me lancer à mon compte, peut-être que je peux faire ça plus tôt, quoi.
Ouais, exactement. Et du coup, donc, initialement, on a eu l'idée de lancer l'agence immobilière parce que on s'est rendu compte aussi, nous, parce qu'on investissait déjà ensemble et chacune de notre côté. Et c'est vrai qu'on était un peu frustrés dans les échanges qu'on avait avec des agents immobiliers qui ne comprenaient pas l'aspect investisseur. Donc, on s'est dit, on lance une agence immobilière comme ça. Voilà, moi, je m'occuperai de la partie commercialisation, marketing, réseaux sociaux, etc., dont le marché, je pense, des agences immobilières a un petit peu besoin. Et So apporte la carte T, toutes ses connaissances, etc. Donc, on était parti là-dessus et on a créé en parallèle le compte Instagram, donc Saving Sisters, pour parler un petit peu d'investissement, d'immobilier, sans avoir en tête l'idée de lancer, de faire de la formation. Mais en fait, très rapidement, ça a pris de l'ampleur et je crois qu'au bout de 2 mois, on avait à peu près 7000 abonnés. Ouais. Et en fait, on nous demandait, on avait, je sais pas, des cinquantaines, centaines de messages par jour de personnes qui nous demandaient conseils. Et on s'est dit, mais en fait, il y a quelque chose à faire. Enfin, si la demande est là, enfin, on n'a pas d'offre, mais la demande est là. Ouais, donc, il faut qu'on structure quelque chose autour de ça. Et donc, notre énergie a été réorientée et c'est l'agence immobilière qui a été un peu plus mise de côté, surtout au début. Et c'est vraiment sur le centre de formation qu'on a mis l'effort, quoi.
Donc, et ça, comment vous avez réussi à le monter? Est-ce que vous aviez des connaissances justement dans la formation? Parce que c'est quand même un milieu qui est à part.
Pas du tout. Non, d'ailleurs, au début, ça nous fait toujours rire parce que on avait ces demandes quand même d'accompagnement. On nous demandait est-ce que vous faites de la formation, de l'accompagnement, etc. Et donc, on s'est dit, punaise, qu'est-ce qu'on pourrait proposer assez rapidement pour satisfaire du coup cette demande là et donc on s'est dit, bon, ben on va proposer des appels, voilà, on va faire comme des visios un petit peu et on va faire du conseil en ligne avec ces personnes. On s'est dit, on va faire 1 heure d'appel. Et donc, on a teasé un petit peu là-dessus parce que, bon, toi, tu savais quand même comment teaser, voilà, un produit ou une offre. Donc, on avait un peu fait ça sur les réseaux. Et on s'est dit, mais punaise, le jour où on va le lancer, on va avoir, du coup, une cinquantaine ou une centaine de demandes, vu que c'est ce qu'on avait tous les jours. Et en fait, quand on a lancé ça, on a eu 3 appels.
Silence radio, ouais.
C'était terrible. Rien du tout.
Parce que, en fait, ça correspondait pas à ce que les gens souhaitaient.
Ouais.
Donc, c'est là où, bon, est venue l'idée de la formation. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas, enfin.
On n'avait aucune connaissance là-dedans, hein. Pas du tout.
Vous y êtes allé à tâtons. Et
exactement. Ouais. Petit à petit, et je pense qu'on apprend encore aujourd'hui, parce qu'au final, ça évolue un petit peu. Enfin, tout évolue, autant la façon de communiquer dessus, autant façon de vraiment mettre en avant les produits. Ouais. Même le contenu de la formation, on le met à jour assez fréquemment. Donc, le contenu de l'accompagnement également. Donc, voilà, ça, je pense que ça, c'est très important aussi quand on se lance, c'est ne pas attendre d'avoir le produit parfait avant de se lancer, mais simplement y aller, évaluer un peu le retour des clients ou des potentiels clients et ensuite adapter au fur et à mesure en fonction des retours qu'on a.
C'est ce que j'allais dire, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est toujours de demander aux personnes, soit parce qu'on organise quelque chose en interne avec nos coachés, soit parce qu'on a fini un accompagnement avec eux, de leur demander ce qui leur a plu, ce qui leur a moins plu, qu'est-ce qui manquait éventuellement à cet accompagnement. Donc effectivement, oui, prendre le retour client et aussi, je pense, ne pas se laisser influencer par ce que font les autres. Alors certes, c'est bien de regarder un petit peu ce qui se fait aussi sur la concurrence, dire, j'aime pas dire ça, mais
une petite veille
qui se fait, de ce qui peut éventuellement fonctionner. Mais je pense qu'il y a aussi eu des phases où peut-être qu'on s'est perdu, parce qu'on s'est jamais perdu, mais où on a pris un chemin où après on s'est dit, ah, en fait, je me sens pas forcément aligné, que ce soit avec une manière de communiquer.
Ça vous ressemblait pas.
Non. Mm-hmm. Et je pense que c'est important de faire les choses en restant authentique. Ça sert à rien d'essayer de s'inventer des choses, de rester très authentique. Et naturellement, on se rend compte qu'on attire à nous des gens qui sont comme nous. Et il n'y a rien de plus agréable que d'avoir des clients, des coachés qui nous ressemblent. Mm-hmm. Donc, je pense qu'il faut, faut prendre le retour de ses clients et toujours rester fidèle à soi-même, quoi.
Mm. Alors, aujourd'hui, vous avez quel âge chacune?
27.
29.
27 et 29. Et alors, comment vous voyez l'évolution, justement, de vos business?
Je pense continuer à pouvoir accompagner toujours plus de monde, parce que c'est vraiment ce qui nous apporte le plus de satisfaction et de gratitude, c'est de voir à quel point ça peut changer la vie de quelqu'un, quoi, de passer ce step là. Donc continuer continuer à faire
Je pense continuer à démocratiser vraiment l'investissement et l'éducation financière. J'aimerais Je sais pas exactement de quelle façon, mais l'apporter à une plus grande échelle pour vraiment que les gens comprennent. Je pense que le besoin est là. Et de plus en plus, quand on voit ce qui se passe et la décorrélation complète entre les revenus des salaires et le prix de l'immobilier et le prix de la vie, tout simplement, je pense qu'il y a un réel besoin, une nécessité de comprendre un petit peu les rouages et de sécuriser son avenir via des placements, que ce soit IMO ou autre. Donc, apporter, voilà, c'est en tout cas insuffler un petit peu l'envie d'apprendre un peu plus sur ce domaine-là à un plus grand nombre, c'est... Ouais. C'est la vision et enfin, l'envie. Je ne sais pas comment on va y arriver, mais on va y arriver.
Et je pense que oui, l'agence immobilière, l'objectif, ce serait de la pérenniser dans le 66, donc dans le sud aujourd'hui. Ouais. Et peut-être à terme, pourquoi pas, on ne sait pas non plus sous quel format, mais de l'étendre aussi au fur et à mesure à d'autres départements ou d'autres régions aussi en France.
Parce que là, comment ça se passe en ce moment? Vous avez beaucoup de clients, sachant que la transaction est impactée. Alors peut-être moins dans le sud. Non. Parce que c'est vrai que sur la côte, il y a quand même des investissements qui se font. Mm-hmm. Oui. Mais que, voilà, comment ça se passe
Non, la transaction, c'est bien plus calme. Ça, c'est une certitude comparée.
Même dans le sud,
un an et demi, c'est beaucoup, beaucoup plus calme. Après, au niveau du centre de formation, ça continue parce que justement, je pense que les gens aussi se rendent compte. Il y a quand même ce blocage de les taux sont beaucoup plus élevés, donc est-ce que c'est le bon moment? On a beaucoup, beaucoup ce questionnement en ce moment. Mais on a aussi beaucoup de personnes qui se rendent compte justement de l'évolution du coût de la vie et qui se disent, OK, c'est peut-être le moment pour moi de m'intéresser à ça. J'ai envie de placer pour sécuriser mon avenir. Donc, au niveau de la formation, ça continue.
Et alors, qu'est-ce que vous leur répondez? C'est vrai que les taux sont passés de 1 à 4%. Mmh. Là, ça stagne, ça redescend un petit peu depuis janvier. Qu'est-ce que vous conseillez justement aux gens? C'est vrai que beaucoup posent cette question. Est-ce qu'il faut quand même se lancer malgré les taux qui sont presque autour des 4%?
Ouais. Mais c'est vrai qu'on a le même discours depuis qu'on a commencé à observer cette... En fait, nous, au final, on s'est lancé au moment où il y a eu cette augmentation. Hein. Donc, on a surfé sur toute cette vague-là.
Non, on a connu encore la belle époque des 1%.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que rapidement, en tout cas, les premiers mois, on a commencé à observer une augmentation. Et en fait, on a toujours eu le même discours de... C'est la même chose que se lancer dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de moment parfait. Il faut juste se lancer avec la situation actuelle. Et ensuite, on peut réadapter. Alors, soit parce qu'un jour, les taux vont diminuer, on peut faire des rachats de crédit. Et aussi, le fait que dans toute situation où on a l'impression que c'est pas bien, il y a des opportunités qui sont incroyables. Et du coup, le fait que les taux sont hauts, forcément, on le voit, il y a une diminution au niveau des transactions. Mais du coup, ça veut aussi dire que pour les personnes qui vont jusqu'à un achat, il y a beaucoup plus de négociations possibles. Donc,
on peut plus négocier le prix.
Ouais. Ouais. Donc forcément, certes, le crédit coûtera un petit peu plus cher auprès de la banque, mais c'est pas in fine, on n'est pas arrêté à ça, on peut le renégocier du coup plus tard. Mais c'est surtout qu'on a une meilleure négociation sur les prêts des biens. Donc, allez, nous, on leur dit, allez-y, c'est juste... On va pas, et puis on va attendre combien de temps, on sait pas. Si quelqu'un souhaite que ça repasse à 1 ou à 1,10, ben je lui souhaite d'attendre, et dans ces cas-là, on sait pas combien de temps ça peut durer, quoi.
Oui, donc vous conseillez plutôt d'y aller et de négocier les prix au maximum.
Oui. Ouais.
Alors, on va parler un petit peu de ce que vous faites à côté. Donc, vous travaillez ensemble, vous vivez pas ensemble.
Non,
vous vivez séparément. Vous avez chacune votre vie. Est-ce que vous avez des passions? Alors, du sport, je crois.
Oui. Moi, pour ma part, je fais énormément de crossfit. Depuis qu'on a lancé Civing, d'ailleurs, hein, je pense que c'est un peu à la même temps, j'avais besoin de d'évacuer un peu, donc du crossfit. Et donc depuis peu, vu qu'on fait beaucoup de choses ensemble, on s'est dit pourquoi pas se lancer un challenge sportif. On prépare du coup un Aerox, donc c'est une discipline qui existe depuis pas très très longtemps, mais qui mixe de la course et du coup un petit peu de crossfit, et qu'on va faire à Bordeaux fin de mois. Et qu'on fait du coup en binôme, parce que c'est une pratique qu'on peut faire en individuel, d'accord, qu'on peut aussi faire à deux. Et donc là, ça fait, je sais pas, 2-3 mois qu'on se prépare ensemble, que je la traîne à la salle avec moi. Elle est ravie. Ah oui. Mais je pense que oui, c'est le côté un peu challenge et discipline un petit peu.
Pour nos auditeurs, le crossfit, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous faites au crossfit?
Alors, le crossfit, ça mélange au final aussi quelques disciplines. Il y a beaucoup d'haltérophilie.
Oui.
Il y a de la gymnastique aussi. Oui. Et après, une partie
plus cardio, on va dire, et donc ça vient mélanger un petit peu tout ça.
Donc c'est assez complet, en fait, comme sport.
C'est assez complet. C'est assez traumatisant pour le corps aussi. Mais oui, c'est assez complet, ouais. Ouais.
Et du coup, ça, donc là, l'Aerox, il y a la course en plus. C'est une course de combien de kilomètres ?
Alors en fait, c'est un format où il y a 1 kilomètre de course, un atelier à faire, 1 kilomètre de course, un atelier. Donc ça, c'est 8 fois. Ah oui. Donc au total, il y a 8 kilomètres.
Oui, c'est intense.
Oui, c'est assez. En fait, c'est assez sur la durée parce que nous, on vise à peu près de le faire en 1h30. Et les ateliers, ça peut être des ergos, donc du ski, du rameur, pousser du coup un sled avec du poids, faire des fentes, mais avec du coup un poids sur les épaules. Enfin voilà, ça fait un peu barbare dit comme ça. Mais voilà, c'est très sympa.
Alors, il y a un des techniciens, je sais pas lequel, qui met CrossFit, j'ai testé, c'est la mort.
Je suis d'accord avec cette opinion.
Mais je pense que les gens qui testent le CrossFit, c'est tous ceux qui le testent, c'est soit effectivement ils détestent, parce que c'est trop dur, soit ils adorent, et ça devient.
Et vous avez tout de suite adoré?
Ah, tout de suite. Et au début, j'y allais 6 fois par semaine et je me suis blessée rapidement parce que j'en faisais trop d'un coup.
Oui, parce que c'est un peu violent quand même pour le corps.
C'est assez violent quand même.
Faut faire attention, j'imagine. Il y a des précautions à prendre. Et vous, Valérie
Rien à voir. Du coup, je me suis fait alpaguer dans l'aerox. Donc, je vais aller jusqu'au bout et faire cet aerox. Et ensuite, je vais repasser à mes activités à moi qui sont le yoga, donc beaucoup plus zen, le kitesurf et le saut en parachute.
D'accord, vous sautez en parachute.
Ouais. Non, mais du coup, un peu moins zen, mais ça reste plus zen, quoi.
Ouais, enfin, le saut en parachute...
C'est pas très zen, hein, je suis désolée, mais...
ça dépend pour qui, mais en tout cas, pour moi, c'est très
ça
zen.
Vous, ouais, voilà, ça vous libère, c'est un lâcher-prise.
Exactement.
Ah ben oui.
Mais en fait, on est complètement concentrés sur l'avion, sortir de l'avion, le pliage de parachute. C'est très minutieux, quand même, comme sport. Donc,
très militaire, d'ailleurs.
Très militaire aussi, ouais, très militaire. Et du coup, voilà, ça me permet de me vider complètement la tête.
Et vous en faites régulièrement ?
J'essaye, ouais. La saison, c'est de mi-mars à peu près à fin octobre, début novembre. Donc, pendant cette saison, ouais, j'essaye d'y aller, au moins une fois par semaine.
Et maintenant, vous sautez toute seule ou...
Oui, absolument.
D'accord, oui. Parce qu'au début, on a besoin d'avoir quelqu'un, je crois, derrière soi.
Oui. Alors, au début, oui, tandem. Donc, c'est ça avec un moniteur derrière. Et puis après, on peut faire une formation PAC. Où en fait, on a des moniteurs qui nous tiennent la main, mais qui ensuite nous lâchent. Et dès le premier saut, en fait, dès qu'on ouvre le parachute, on est tout seul, donc on guide son propre parachute. Et au bout du 7e saut, on est complètement en autonomie. Donc c'est assez étrange parce que c'est très rapide, mais au bout de 7 sauts, on est tout seul. Voilà. Donc ça va très vite.
Et ça, Sophie, non, le saut en parachute,
moi, mes deux pieds sur terre, je suis très bien. Le plus haut que je monte, c'est quand je suis à cheval. Voilà. Mais sauter dans les airs, là, comme ça, non. Moi, j'aime bien quand...
Tu m'as challengé sur l'aerox, je vais te challenger sur le saut en parachute.
Ouais, non, c'est pas pareil. Moi, j'aime bien savoir où je vais, quoi. Je sais pas.
Un pari en direct à l'antenne.
On relève le challenge.
Allez.
Ou pas.
Et vous reviendrez pour en parler.
Alors, je vais dire oui, mais je m'engage pas sur une date.
Ça va être dans 5 ans, dans 10 ans.
Non, mais je sais qu'un jour, il faut que ce soit sur ma liste des choses à faire parce qu'il faut que je le fasse, mais je m'engage pas à une date.
Donc, okay. Bon. Bah voilà, c'est acté, c'est enregistré, ça a été filmé. Dernière question peut-être avant de clôturer l'émission, les conseils que vous donneriez à ceux qui aimeraient se lancer en tant qu'entrepreneur, alors pas forcément dans l'immobilier, dans n'importe quel domaine, si vous avez un conseil à donner.
Bon, il y a plein de conseils qu'on pourrait donner, mais je pense se faire confiance, ne pas avoir peur d'y aller. Et comme j'ai déjà dit tout à l'heure et que j'adore répéter, c'est ne pas attendre. En fait, il y a une phrase qu'une entrepreneure que j'admire énormément qui s'appelle Greta Van Reel qui dit « Si tu n'as pas honte de la première version de ton produit, tu t'es lancé trop tard. » Enfin, de ton produit ou voilà, de ton business. Et je suis 100% d'accord avec ça. Je pense que autant dans Civing que dans les business que j'ai pu avoir précédemment, la version actuelle ne ressemble pas du tout à la version première de quand je me suis lancée. Ouais. Donc, il faut tout simplement y aller, tester et adapter.
Ce sera jamais parfait. Faut pas attendre.
Exactement.
Et moi, je rajouterais juste que il faut aussi, je pense, rapidement et pas avoir peur de s'entourer des bonnes personnes, de pas forcément vouloir essayer de faire les choses par soi-même, bien que ça apporte beaucoup de satisfaction aussi de réussir des choses. Mais je pense qu'on a aussi appris, pas que en travaillant toutes les deux, mais aussi en rencontrant d'autres personnes, que c'est OK de demander de l'aide. C'est très bien de s'entourer de personnes qui savent faire mieux que nous certaines choses pour grandir plus vite. Donc je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur de faire appel à des personnes, de s'entourer, de s'associer, de... Voilà.
voilà, faut vraiment pas avoir peur.
Pas quoi. Forcément en famille ou...
Alors, pas, enfin, si, moi je dirais quand même
plus
qu'en
en famille,
parce que je m'associerai pas avec n'importe qui. Hein, on a déjà fait des erreurs aussi là-dessus. Ouais. Je conseillerais, si c'est une association, il faut que ce soit avec quelqu'un en qui on a 100% confiance. On l'a dit tout à l'heure, avec la même vision. Et sans forcément parler d'associations vraiment juridiques, mais juste de s'entourer de personnes qui peuvent nous aider un petit peu à avancer dans le chemin de l'entrepreneuriat, quoi.
Mmh. Allez, deux questions. On termine avec ce week-end. C'est, voilà, on est vendredi. Qu'est-ce que vous allez faire ?
Envoyer dans la résidence principale, je pense.
On est toutes les deux en pleine réno. Enfin, Sophie touche à sa fin, mais moi, je suis en pleine réno de ma résidence principale.
D'accord. Donc, réno énergétique ou réno...
Non, réno complète. Complète. Il reste 4 murs, un toit et on refait tout.
D'accord.
Donc, et je pense que c'est le dernier chantier où je participerai. Ouais. Mais voilà, donc je pense que ce week-end, ça va être travaux. Et si la météo le permet, sans parachute.
Ouais. Ouais, ben voilà, travaux et aller courir ou mettre le nez dehors, parce qu'on a quand même le soleil dans le sud, donc on commence à vraiment profiter.
Bon, et on se quitte avec votre choix musical. Alors, c'est le vôtre, Sophie David Bowie. Pourquoi ce choix et pourquoi cette musique ? C'est Dancing, hein.
Ouais. Du coup, celui-là, bah, parce qu'on aime... Enfin, pareil, ça nous met dans un mood un peu... ça peut être autant road trip que quand on est en train de travailler. C'est une bonne... on va dire un bon exit. Et aussi parce que c'est un chanteur que notre maman aimait beaucoup. Donc, du coup, ça nous fait...
Petite dédicace.
Voilà, petite dédicace.
Et ben voilà. Et ben merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau. C'était un plaisir de vous découvrir. Vous avez vraiment un beau parcours. Alors je rappelle votre Instagram, Siving Sisters. S-I-V-I-N-G Sisters, tout attaché. Et puis voilà, vous partagez plein de conseils. Donc allez sur Instagram pour vous suivre. Merci beaucoup.
Merci.
Et nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain Mac de Limo. À très vite. Can swim. Though nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one.
Mac de l'Imo, la matinale info et rencontres dédiée à l'immobilier en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici, à retrouver sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.